Vous savez que récemment, nous avons mené une opération au Liban. On y retourne d'une certaine façon pour faire le point sur la situation parce que les choses évoluent aussi. La France a appelé hier les responsables politiques libanais à trouver sans délai un accord pour former un gouvernement afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé. Début septembre, on se souvient que le président Emmanuel Macron avait assuré, lors d'une visite à Beyrouth, que les partis politiques libanais s'étaient engagés à former un cabinet de mission composé de ministres compétents et indépendants dans un délai de 2 semaines pour sortir donc le pays du marasme. Mais le processus piétine en raison de divergences sur l'attribution de portefeuilles ministériels. Pourtant, le Premier ministre désigné ne ménage pas ses efforts. Il a appelé toutes les forces politiques à œuvrer immédiatement, sans délai, pour le succès de l'initiative française qui ouvre la voie au sauvetage du Liban et met fin à la détérioration accélérée. C'est ce qu'a dit Mustapha Adib. Le Liban, on le sait, vit depuis un an l'une des pires crises économiques, sociales et politiques de son histoire, marquée par une dégringolade de sa monnaie nationale qui ruine les économies des Libanais, une hyperinflation, une paupérisation à grande échelle de la population, sans parler évidemment de l'explosion qui a ravagé surtout les quartiers chrétiens de Beyrouth, c'était le 4 août dernier. Alors pour en parler, un expert de la situation, ancien responsable de l'agence France-Presse Moyen-Orient, qui a publié un ouvrage extrêmement didactique qui s'appelle « Le Liban, une exception menacée en 100 questions » aux éditions Talendier. C'est Xavier Baron qui nous accompagne. On sera également en ligne dans quelques minutes avec Michel Touma, qui est le rédacteur en chef de L'Orient Le Jour. Bonjour Xavier Baron.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut espérer qu'un gouvernement soit formé bientôt au Liban pour que ce pays prenne enfin les rênes de son destin ?
Écoutez, le Liban est habitué à avoir de longues gestations ministérielles. Actuellement, c'est encore bloqué pour des raisons d'attribution de portefeuilles, essentiellement parce que les chiites et le Hezbollah veulent avoir le ministère des Finances. C'est-à-dire que ils considèrent que c'est un peu la théorie des trois tiers que le Hezbollah défend depuis des années, c'est-à-dire un tiers sunnite, un tiers chiite et un tiers chrétien. Et ils disent que, étant donné que le président de la République est maronite, que le chef du gouvernement est sunnite, eh bien, ils doivent avoir un ministère régalien, le ministère des Finances, attribué à eux définitivement. Ce qui est l'avis seulement du Hezbollah, tous les autres partis sont contre ce principe.
Ce n'est pas dans la Constitution.
Et ce n'est pas du tout dans la constitution libanaise, même dans les aménagements qui ont été faits à Taif en 1989. Et pour essayer de sortir de la crise, le président Aoun a fait une proposition il y a 3 jours, c'est-à-dire que 4 ministères régaliens soient dégagés de toute attribution communautaire. Il s'agirait du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances. Voilà, cette proposition doit être examinée par l'Assemblée, mais il y a peu de chances que le Hezbollah revienne en arrière.
Est-ce un premier pas vers la fin du confessionnalisme ?
Ah, la fin du confessionnalisme, qui est essentiellement un communautarisme plutôt qu'un confessionnalisme, parce qu'il n'est pas question de religion là-dedans, il est question de communauté. C'est un vaste débat. Que le communautarisme doive évoluer, ça semble certain, il ne peut pas rester tel qu'il est, surtout qu'il a été dévoyé depuis maintenant 30 ans. Au profit de groupes politiques et communautaires qui et souvent il s'agit d'anciens seigneurs de la guerre de la guerre de 75-90 qui se sont emparés, qui tiennent les leviers, qui font du clientélisme
et qui sont toujours là,
et qui profitent des finances publiques. Mais supprimer le communautarisme au Liban, communautarisme qui existe depuis au moins la moitié du 19e siècle, c'est-à-dire pratiquement 200 ans de communautarisme, ça va pas se faire rapidement, ça va prendre plus d'une génération si on veut changer. Maintenant on peut l'aménager, maintenant il y a certaines choses qui sont devenues assez insupportables pour la population libanaise qui peut être aménagée, mais supprimer le communautarisme, c'est un peu inviter à ne rien faire, parce que c'est un tel chantier que...
On ne peut pas toucher les boulons tout de suite, c'est trop monumental, ça ferait s'écrouler tout l'édifice.
Il faut demander aux Libanais s'ils veulent la fin du communautarisme, jusqu'à présent on n'en a pas la preuve. S'ils veulent la fin du communautarisme, il faut faire des propositions.
Ce n'est pas ce que disent les manifestations.
les manifestations, mais il y a 4 millions de Libanais. Il y a combien de manifestants ?
Enfin, vous écrivez qu'on ne sait pas exactement combien il y a de Libanais. Hein. Il y a un petit flou quand même sur le nombre de Libanais.
Il y a un flou sur le nombre de Libanais, mais en gros, c'est autour de 4 millions. Ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a plus d'un million, un million et demi de réfugiés. Mais de citoyens libanais, c'est autour des 4 millions. Sans compter évidemment toute la diaspora, qui est plus importante même que la population libanaise vivant sur le territoire libanais.
La diaspora aurait la possibilité, on sait que la diaspora est, d'une certaine façon, elle est quand même assez opulente, cette diaspora aux États-Unis, en Afrique elle tient beaucoup
de
commerce.
C'est le drame, les Libanais réussissent à l'étranger et ne peuvent pas réussir chez eux.
Est-ce qu'elle a les clés, est-ce qu'elle aurait les clés de la résolution politique du Liban ?
Non.
Ou est-ce qu'elle se tient à distance précisément pour ne pas mettre le doigt dans cette machine ?
Politiquement, elle se tient à distance. D'abord, il y a une question de droit de vote. Si vous voulez intervenir dans les affaires libanaises, comme dans tout pays, dans le monde politique, il faut pouvoir voter. Et puis, la diaspora est très active sur un plan financier. C'est de l'ordre de 7 milliards de dollars que la diaspora envoie chaque année au Liban, à leur famille. Et parfois, c'est des familles libanaises vivent grâce à l'argent que leurs membres leur envoient de l'étranger. Ça, pour ça, la diaspora est très importante. Mais politiquement, la diaspora n'a pas d'action.
Xavier Baron, j'ai beaucoup, beaucoup de questions, parce que c'est un pays complexe, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent.
C'est un pays complexe, mais qui peut se comprendre. Contrairement à ce qu'on dit parfois, le Liban est compréhensible, mais c'est compliqué.
Sur le confessionnalisme, est-ce que c'est l'Empire ottoman qui a... Alors, il faudrait essayer d'expliquer rapidement les choses. La ligne côtière, ce sont les Grecs orthodoxes et les Sunnites. La montagne libanaise, ce sont les Chrétiens et les Druzes. En fait, ce sont deux pays...
Ce sont les Maronites et les Druzes.
Les Maronites et les Druzes.
Parce que les Grecs orthodoxes, ce sont chrétiens, les Sunnites sur la côte. Oui,
oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que... Vous posez la question à un moment, est-ce qu'il y a une identité libanaise ? Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux géographies-là, qui ont été amenés et qui sont amenés à cohabiter dans un État, est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent ou est-ce qu'il faudrait, puisque le mot de séparatisme est en vigueur en France aujourd'hui et qu'on a une certaine cote, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui prendre acte de ces communautés et en quelque sorte valider un éclatement historique ?
Alors, c'est un sujet qui avait été d'actualité pendant la guerre 75-90. Puisqu'il semblait impossible de réunir et de réconcilier tous les Libanais. Et donc, en plus de ça, Israël favorisait la création d'un État chrétien.
Pourquoi ?
Parce qu'Israël aurait été heureux d'avoir au Liban un État qui lui ressemble, c'est-à-dire un État basé sur une ethnie, sur une religion. Donc un État chrétien, c'est que ça aurait renforcé en quelque sorte l'État juif, et puis ils auraient pu avoir des accords avec eux, et c'est ce qu'ils souhaitaient. Enfin, c'est une des raisons de l'invasion de 1982. Bien, après la fin de la guerre en 90, les Libanais se sont retrouvés. Si vous allez... Moi, j'étais frappé les dernières fois où j'étais au Liban de voir que la ligne de démarcation a totalement disparu, que les gens passent d'un quartier à l'autre sans aucun problème, sans même s'en rendre compte. Et quand on a connu la ligne de démarcation pendant les années 70-80, ça montre quand même que les Libanais aiment bien être ensemble. Alors ensuite, l'identité libanaise, il y a des tas de signes, il y a la langue, il y a le...
Il y a 15 statuts civils différents.
Ah, alors il y en a 18.
18, pardon.
Ah oui, alors quand je vous disais que sans supprimer le communautarisme, qui paraît est un chantier de longue haleine, on peut aménager les choses. Et effectivement, l'état civil est un sujet. Un maronite ne peut pas épouser une chiite ou un chiite.
C'est ça, donc dans les faits, il y a bien une partition ou un partage qui est quand même dans la vie quotidienne des gens, pour qu'on se rende compte, parce que souvent ici, on ne mesure pas peut-être ce que c'est. Il y a quand même un partage qui fait que vous avez des tuyaux d'orgue, en fait, qui se juxtaposent les uns à côté des autres.
Absolument.
Vous n'avez pas de vie commune.
Oui, alors il y a une vie commune, mais en ce qui concerne l'état civil, chacun a ses règles, parce que ce sont les tribunaux religieux des 18 communautés qui décident de la vie civile. Alors ça pourrait être aménagé. Et c'est ce que demandent notamment les manifestants. Mais... c'est pas pour autant que les gens ne vivent pas ensemble. C'est du domaine de la vie privée et de la vie civile. Alors effectivement, il y a quelque temps, le président Aoun avait demandé non pas un État laïque, parce que laïque ça n'a pas de sens, ça n'existe pas en terre d'islam, mais un État civil. Enfin, il voulait dire par là que tous les Libanais aient le même état civil et le même règlement de pour leur vie privée. Ça, ça fait partie des choses qui devraient pouvoir être aménagées. Mais il ne faut pas voir le communautarisme au Liban comme on le voit en France. C'est totalement différent. En France, le communautarisme, quand il cherche à s'infiltrer, c'est contre les lois de la République. Au Liban, l'État repose sur le communautarisme. Donc le communautarisme au Liban n'est pas contre l'État, mais l'État fonctionne avec le communautarisme. Donc c'est très différent de la vision française du problème.
Xavier Baron avec nous donc ce matin. On est en ligne également avec Michel Touma, rédacteur en chef de L'Orient Le Jour. Bonjour Michel Touma.
Bonjour.
Merci d'être nôtre ce matin pour nous livrer une analyse aussi de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je le disais au tout début de cette émission, il y a une initiative française en ce moment pour que le Liban essaie de dégager un gouvernement. Quelle est votre analyse sur le sujet? Est-ce que vous pensez que ce pays va pouvoir se doter d'un exécutif bientôt?
Alors, ce qui se passe en fait à ce sujet, vous parliez tout à l'heure du portefeuille des finances que le Hezbollah réclame et qui voudrait qu'il soit confirmé aux chiites. En fait, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé, d'abord, il faut comprendre un point important au sujet du Hezbollah. Lorsque le Hezbollah a été formé dans les années, au milieu des années 80, il a mis au point une charte politique et qui définit sa doctrine, son idéologie politique. Alors, dans cette charte, il est précisé de façon très claire et très explicite que toutes les décisions à caractère stratégique, et notamment les décisions de guerre et de paix, et même les décisions politiques qui ont une portée stratégique, ces décisions-là relèvent de ce qu'ils appellent, eux, le Wadi al-Faqih, c'est-à-dire qui n'est autre que le guide suprême de la République islamique iranienne. Donc, ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement, c'est que cette histoire de portefeuille de ministère des Finances et de nomination des ministres chiites par le tandem, ce qu'on appelle ici le tandem Hezbollah-Aman. En fait, ça c'est la partie visible de l'iceberg, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le Hezbollah pratiquement a remis cette carte-là aux Iraniens, à l'Iran, qui utilise cette carte comme instrument de marchandage et de chantage même, disons, avec la France et les États-Unis, l'objectif final étant évidemment de marchander ça avec les États-Unis. Donc c'est ça, le blocage se situe à ce niveau. C'est que l'Iran, qui détient maintenant cette carte-là, sous le couvert d'attribution du ministère des Finances et tout ça, elle n'accepte de débloquer la situation et de faciliter la formation du gouvernement que dans le cadre d'un marchandage avec la France, avec le président Macron, et dans un but ultime avec les États-Unis.
Donc Michel Touma, ce que vous nous dites en fait, c'est que la clé n'est pas on peut dire les mains de Mustapha Adib, mais la clé est dans les mains d'Emmanuel Macron, les mains de la République d'Iran et des États-Unis. Ça veut dire que ça ne se joue pas au niveau en soi de l'exécutif libanais actuel.
C'est l'impression qui prévaut actuellement au Liban, dans tous les milieux politiques. Alors, pour essayer de débloquer la situation, l'ancien Premier ministre Saad Hariri a proposé hier que le ministre des Finances soit effectivement chiite, mais qu'il ne soit pas nommé par le Hezbollah, qu'il soit nommé par le Premier ministre, ce qui est évidemment une évidence. Mais au Liban, ce n'est pas une évidence. Donc, il a proposé que le ministre des Finances soit chiite, mais un chiite nommé par le Premier ministre désigné. Et à condition que cette nomination ne soit pas considéré comme étant une coutume, ou bien que ça ne soit pas considéré comme un des paramètres du pacte national. C'est-à-dire que ce ne soit pas un fait accompli permanent.
C'est ça, conjoncturel, que ce soit lié à la situation qu'on observe aujourd'hui. Donc ce ne soit pas un fait acquis par le Hezbollah. Michel Touba, voilà, j'en viens à un autre sujet, je me permets, parce que le temps passe et je voulais absolument vous en parler, qui n'a pas à voir, qui n'a rien à voir en soi avec la situation politique ministérielle. Ça concerne l'explosion du 4 août. Quand nous nous sommes rendus au Liban il y a peu de temps, quand vous discutez avec les gens de la rue, et je demanderai aussi l'avis de Xavier Baron sur le sujet, tout le monde vous dit que l'explosion du 4 août est un attentat. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que cette information n'a pas du tout été véhiculée en France et on ne dit pas du tout que l'explosion du 4 août dans le port de Beyrouth est un attentat. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Alors, moi, à mon avis, ce n'est sûrement pas un accident. Alors, si c'est dû à un acte de sabotage ou à une action extérieure, c'est-à-dire un missile ou l'action d'un drone, ça, je pense qu'il faudra attendre beaucoup pour confirmer ça. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout un accident. Pour une raison très simple, d'abord, c'est que le nitrate d'ammonium, en tant que tel, ne provoque pas seul ce genre d'explosion qui a détruit presque le tiers de la capitale. Ça, je pense que c'est évident.
Pour vous, ce n'est pas un accident, donc.
Ce n'est pas un accident. Il y a un facteur extérieur qui a provoqué cette explosion, qui a détruit le tiers de la capitale. Ce facteur extérieur, on doute ici, on pense ici à Beyrouth qu'il s'agissait d'un dépôt de munitions et même de missiles. Mais même ça, il y a quelque chose qui a provoqué l'explosion de ces munitions et l'explosion de ces munitions s'est étendue à un nitrate d'ammonium et tout ça a provoqué cette explosion vraiment apocalyptique.
D'accord, donc il y aurait un autre entrepôt en fait qui aurait explosé et qui aurait répandu en quelque sorte et par contamination, le nitrate d'ammonium aurait explosé. Michel Touma, on doit se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Et puis la prochaine fois qu'on passe au Liban, on viendra bien sûr vous voir et puis vous demander votre analyse. Le Xavier Baron, puisqu'il nous reste aussi quelques minutes, je voulais avoir votre avis sur ce sujet que j'ai abordé, qui est peut-être un peu polémique. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit Michel Touma à l'instant ?
Écoutez, jusqu'à présent, les premiers éléments de l'enquête ne pointent pas l'explosion de dépôts de munitions, de missiles, ni d'intervention israélienne. Il y avait une grosse erreur qui avait été de stocker ce nitrate. On sait que dans d'autres pays au monde, il y a eu des explosions. Le nitrate est particulièrement inflammable. Et l'enquête va le dire. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'éléments disant que c'était un dépôt de munitions.
Il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt de qui que ce soit à ce que ce type d'accident survienne ?
Écoutez, c'est que le port de Beyrouth était largement contrôlé par le Hezbollah qui faisait tout son trafic, comme d'ailleurs une partie de l'aéroport. Si le Hezbollah fait sauter ses propres installations, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc là de ce côté-là, je ne vois pas, encore une fois, il faut attendre l'enquête. Parce que,
et une action israélienne, non ?
L'action israélienne...
Contre des installations du Hezbollah, ça vous paraît...
Personne n'a... Vous savez que cette région est en permanence suivie par les satellites, les bâtiments de guerre qui croisent dans la région et tout. Et personne, aucun État, aucune autorité militaire n'a dit à ce moment-là, il y avait des avions israéliens au-dessus de Beyrouth.
Est-ce qu'il y a une propension des Libanais à essayer de trouver à l'extérieur les causes de leur propre turpitude ?
Ça, c'est une vieille histoire. Oui, c'est la théorie du complot est assez répandue.
Donc ça empêche de trouver en soi les ressources ?
Ou ça permet de se dédouaner.
Maintenant, c'est vrai que c'est un pays qui est quand même l'otage d'une géopolitique extérieure.
Alors ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Que des interventions étrangères en permanence dans le pays. Et Michel Touma vient de rappeler que les chiites, d'après une loi qui date de 1926, d'ailleurs c'est vieux, les chiites libanais ont le droit d'obéir aux fatwas et à la charia, ce qui est décidé par le guide suprême iranien. Ça, c'est certain. Mais il y a eu des interventions israéliennes, il y a eu des interventions irakiennes, évidemment syriennes, et autres. Donc, le Liban n'a pas les... C'est pas que c'est un État faible, parce qu'en soi, il pourrait très bien vivre, mais il n'a pas les moyens de faire face aux appétits aux crises et aux querelles des pays voisins qui souvent viennent régler leurs problèmes sur le sol libanais. Alors ça, qu'il y ait une intervention étrangère dans l'histoire du Liban, il y en a de multiples.
Les chrétiens étaient 70% il y a 100 ans à peu près, au moment de la fondation de l'État libanais.
80%.
80%
alors,
et maintenant
là encore, on dit que la France a voulu créer un État chrétien. Mais s'il a voulu créer un État chrétien, elle n'aurait certainement pas fait ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que le petit Liban, quand la France est arrivée, c'était le petit Liban qui est hérité de l'Empire ottoman, il comptait 80% de maronites, de chrétiens. 80%. Quand la France a créé le Grand Liban, il n'y en avait plus que 55% de chrétiens. Donc la France a fait baisser de 25% le taux de chrétiens dans le pays. Donc c'était pas pour créer un État chrétien. Et on savait bien en 1920-1922 quand le Grand Liban, enfin en 1920 exactement quand le Grand Liban a été créé, que la majorité de 55% des chrétiens n'allait pas tenir. Parce que le taux de natalité dans les populations musulmanes était plus élevé. Donc le taux de chrétiens a baissé. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 3/3. En gros, 30% de chrétiens, 30% de sunnites et 30-35% de chiites.
Est-ce que ça hypothèque toute idée que les communautés puissent un jour vivre ensemble et qu'après tout, les chrétiens devenant minoritaires, ils devront avoir leur territoire, un peu comme on fait des Sud-Africains, vous voyez, en Afrique du Sud, qui se sont regroupés dans une communauté territoriale fermée.
Oui, mais les Libanais vivent ensemble. Ils vivent ensemble aujourd'hui. Alors, il y a des désaccords politiques et tout, mais au niveau de la population, regardez les manifestations qui ont eu lieu depuis le mois d'octobre l'année dernière. Vous aviez des manifestants de toutes les communautés et qui se réclamaient pas de leur communauté, justement. Donc, la vie entre les communautés, le conflit vient sur le plan politique, sur le plan d'influence, mais les Libanais eux-mêmes vivent ensemble.
Donc ça, c'est déjà un acquis pour l'avenir.
Oui, absolument. Les Libanais, aujourd'hui, il n'y a pas d'appel au sein des manifestants ou de la population pour une séparation et pour créer même l'idée de créer un État fédéral où il y aurait des sortes de cantons plus très, très, très marqués au point de vue communautaire n'est pas dans l'air du temps.
Merci beaucoup Xavier Baron de nous avoir donné tous ces éléments de compréhension de la situation au Liban et on voit que l'actualité évolue quasiment d'heure en heure, ou au moins de jour en jour sur cette question-là, que l'on va continuer à suivre pour ce qui nous concerne. Et je rappelle, le Liban, une exception menacée aux éditions Talendier, que vous avez couvert pour l'agence France Presse, le Moyen-Orient, pendant plusieurs années. Je vous souhaite une bonne journée.